Bonjour à toutes et à tous. Tranche de Livre, votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Arverne 100.2. Une émission qui précède la notoriété mais ne la suit pas. Nous allons rester ensemble pendant une demi-heure avec une présentation de l'actualité des livres. Et aujourd'hui, thème de la quête identitaire féminine et la place de la femme dans notre société. En ce début du XXIe siècle, un nombre d'auteurs sans cesse plus importants développent un véritable enthousiasme pour des thématiques féminines. Plus précisément, il s'agit pour eux de mettre en exergue la quête identitaire des femmes dans notre société. Cette littérature révèle une omniprésence du corps et de la sexualité en lien étroit avec la société et les schémas culturels imposés, tenant ainsi un discours novateur sur les femmes. Le but de cette recherche est de montrer comment un discours littéraire, en reprenant les discours socio-culturels, féministes et psychanalytiques du moment, conçoit la question de la femme et quelle représentation il produit. Face à cette réflexion sur la question de la femme et son identité, j'ai pu prendre connaissance d'une thèse qui avait centré son étude sur les romans de trois auteurs, Virginie Despentes, écrivain français, Lucia Echevarria, écrivain espagnol, et Maïssa Bey, écrivain algérien francophone. L'être femme est représenté dans un rapport avec la violence masculine, mais aussi avec sa propre violence, dans son rapport au corps et à la sexualité, par des relations humaines conflictuelles, ainsi que par une aliénation sociale et culturelle. Le personnage féminin est un personnage seul, enfermé dans une identité, dans laquelle il ne se reconnaît plus et il se rejette. La quête de soi et de la reconnaissance de soi laissent apparaître leurs aspirations en contradiction avec leurs attributions. À la fin de chaque roman, l'individualisation de la femme est envisagée par la reprise de parole. La reconstruction de soi ne peut être permise que par la maîtrise de la parole sur soi et la quête d'individualisation doit se poursuivre. L'image de la femme est omniprésente dans les arts, les productions commerciales, la communication, la réduisant à l'état de femme-image, pour ne pas dire femme-objet. En Algérie, et dans de nombreux pays du Maghreb, cette image devient la preuve de l'immoralité et du bien fondé du code de la famille et des actions islamistes. En effet, la morale islamique est porteuse de normes concernant le bien et le mal, ainsi que des règles de vie, en rapport avec la charia qui prend le sens de loi religieuse vers le XIXe siècle. Certaines interprétations du Coran commandent le port du voile pour les femmes comme une marque de vertu et comme un frein face au regard de l'homme. La femme occidentale, émancipée du carcan vestimentaire, devient le symbole d'une transgression de la norme sociale et culturelle, mais également religieuse. Beljelloun, auteur marocain de langue française, qui avait obtenu le prix Goncourt en 1987 pour L'Enfant de Sable, a été le premier auteur d'un pays arabe qui a pu écrire sur ce sujet et a dépeint une société traditionnelle où l'homme dirige et la femme obéit. L'histoire d'Ahmed Zahra se déroule au Maroc et parle d'une fille élevée comme un garçon. Le père n'a eu que cette fille auparavant et vit la honte d'être sans héritier mâle dans un monde où l'homme est supérieur à la femme. Tout ça pour nous amener à un roman de la rentrée littéraire 2015, Zena, Bâche à poche, un roman publié le 20 août 2015 aux éditions du Rocher. Brochet pour 18 euros et en format Kindle pour 13,99 €. Je vais vous donner le synopsis du livre et essayer de vous faire comprendre ce que notre auteur a bien voulu dire, à savoir Cécilia Duterte, qui a traité de ce sujet et que nous recevrons dans notre studio tout à l'heure. Née à Kaboul, Zena n'a que 3 ans à la mort de son père. Selon une coutume ancestrale, elle sera une bâche à poche. En clair, une fille déguisée en garçon. C'est le seul moyen de survivre à la honte d'une famille de femmes dans un pays où elles ne peuvent se déplacer qu'accompagnées d'un homme. À la puberté, Elle refuse de recouvrer son identité d'origine et s'enfuit. Réfugiée au sein d'une association militant pour le droit des Afghanes, elle va suivre cette ONG à Paris afin de sensibiliser les médias à cette cause. Elle survit misérablement dans la capitale jusqu'à ce que sa route croise celle d'Olivier. Fasciné par cette beauté qu'il devine sous son allure masculine, ce photographe parvient à l'imposer dans le milieu de la mode et en fait sa maîtresse. Égérie des plus grands couturiers. Zeina sillonne le monde tout en multipliant les conquêtes amoureuses. Cependant, en quittant son Afghanistan natal pour rejoindre le monde occidental, la femme moderne et affranchie dont elle est désormais le symbole a-t-elle gagné la liberté ? C'est un roman bouleversant qui interroge de façon vertigineuse la quête identitaire et l'émancipation féminine contemporaine. Cécilia Duterre nous raconte Zeina avec sa jeunesse en tant que bâche à poche, son refus de se soumettre à la loi de la famille, sa fuite lors d'une visite avec une ONG en France, sa recherche d'une nouvelle vie dans les rues de Paris, sa découverte par un photographe qui découvre en elle sa beauté et la projette dans le milieu du mannequinat. Elle y démarre une carrière brillante qui la met sous les feux des projecteurs. Mais elle ne se sent pas plus libre d'elle-même qu'elle ne l'était à Kaboul, malgré une situation matérielle plus que suffisante. Elle n'arrive pas à trouver son identité propre, son bonheur de femme. Un homme la mettra sur la voie. Un engagement profond pour son pays la rendra heureuse. Mais avant d'en arriver là, elle aura vécu une partie de sa vie sous l'influence des hommes, tout en les manipulant. Une sorte de vengeance pour elle. Mais le bonheur, elle s'en rendra compte, il n'est que dans le dépassement de soi. Et l'aide qu'elle apportera à plus démunis qu'elle va lui redonner ce que son enfance lui a pris. C'est un très très beau livre. J'avais déjà lu quelques livres sur les bâches à poche et j'en connaissais déjà la signification. Cette histoire nous en parle évidemment au début. Car le problème de Zeina est celui d'avoir été élevée comme un garçon avec tous les privilèges qui vont avec en Afghanistan. Et le choc va être rude lorsqu'elle doit reprendre son identité de fille et la construction de sa personnalité va en souffrir. On voit ensuite la confrontation avec notre société qui considère la femme comme libre, mais qui la soumet quand même à d'autres diktats, celui de l'apparence, de la beauté, dans un milieu professionnel extrêmement dur qu'est la mode. Tout cela fait un effet détonnant et Zeina mettra de nombreuses années avant de retrouver son équilibre. J'ai beaucoup aimé l'écriture de Cécilia Duterre, rapide, nerveuse, pleine de sensibilité, qui va nous parler avec sincérité des femmes de notre époque. Cécilia Duterre, faut-il vous la présenter ? Et je préférerais vous dire que c'est une enfant de la balle, puisque c'est la petite fille du peintre César Domela. Elle est née à Paris en 1968, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Avant d'élire domicile à quelques encablures du parc de Sceaux. Et une petite pause musicale pour vous retrouver sur Radio Arverne 100.2 avec Cookie Dingler, Femme libérée.
Le monde y a longtemps qu'elle fait plus semblant. Elle achète match en cachette, c'est bien plus marrant. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Au fond de son lit, un macho s'endort. Quand même, et lui ronronne des tonnes de je t'aime. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Du souci,
changer une roue. Elle avoue son âge, celui de ses enfants. Écoute même un petit joint de temps en temps. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Non.
De livres sur Radio Arverne.
Bonjour Cécilia Duterre et merci d'avoir répondu à notre invitation dans notre émission Tranche de livres pour évoquer le destin des femmes afghanes, au cas particulier de votre roman, et celui des autres femmes dans le monde en général.
Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous. Bonjour à tous vos auditeurs.
Merci. Alors, je voudrais vous présenter auprès de nos auditeurs. Je me suis longtemps posé la question si c'était moi ou vous qui alliez le faire. Et je me suis dit que, vu la richesse de votre cursus, je préférerais vous le laisser le développer. Et surtout, ça répondrait peut-être à ma question, comment êtes-vous arrivé à l'écriture ?
Alors, oui, alors moi j'étais juriste dans une autre vie, j'étais conseiller juridique, d'abord au CNRS et puis ensuite à la Bibliothèque nationale de France, et je m'occupais, figurez-vous, j'étais spécialiste en droit d'auteur, alors c'était pas si lointain quand même du monde littéraire, hein, mais j'étais quand même, du côté juridique. Et puis, je lisais énormément, j'ai travaillé 10 ans, hein, comme salarié, et puis je lisais énormément, j'ai toujours été boulimique de lecture depuis toute petite, et à la faveur d'une grossesse, une deuxième grossesse un peu difficile, où il a fallu que je reste à la maison, eh bien, en fait, je me suis lancée, j'ai écrit mon premier manuscrit, et mon mari m'a poussée à l'envoyer parce qu'il trouvait que l'histoire était bien, enfin de son point de vue. Et puis une petite maison d'édition a accepté le livre et ça m'a mis en fait le pied à l'étrier. C'était une petite maison parisienne, pas hyper connue, mais enfin c'était un début. Et puis en fait j'ai pas repris le travail et j'ai tenté ma chance. Et puis ma foi, ben j'en suis à mon 12e ouvrage. Alors je crois que, en tout cas de mon point de vue, d'un point de vue de bonheur personnel, je crois que j'ai bien fait.
Vous étiez peut-être pas une bâche à poche parce que vous n'étiez pas confiné dans un rôle masculin, mais vous avez laissé une situation stable pour aller dans le péril de l'écriture, ce qui est formidable. Alors justement, moi je me demandais, en revenant sur Zena Bâche à Poche, que j'ai beaucoup aimé,
oui.
Je vous demanderais, moi, comment vous est venue l'idée ? C'est un roman de femmes ou un roman sur les femmes ?
Alors, je dirais, c'est un roman sur une femme, cette petite Bâche à Poche, mon héroïne, qui s'appelle Zena, et qui, en fait, je suis tombée par hasard sur un article de presse, il y a quelques temps, qui parlait de cette coutume des Bâches à Poche, hein, qui est une coutume très fréquente en Afghanistan. Donc, les Bâches à Poche, c'est des petites filles déguisées en garçons dans les familles où il n'y a pas d'hommes, où le père est mort, comme c'est le cas pour mon héroïne, et où il n'y a pas de frères. Pour que les femmes puissent sortir, ne serait-ce que dans la rue, elles doivent être accompagnées d'un homme, surtout chez les Pashtuns, dont mon héroïne est issue. Et voilà. Et en fait, je suis tombée sur cette coutume, sur cet article de presse, et je me suis dit que moi qui travaillais beaucoup sur la question de la quête identitaire, à travers mes romans, mais aussi à travers mes essais, parce que j'écris des romans, mais je ne suis pas que romancière, je suis aussi essayiste, donc j'écris aussi des essais, mais c'est vrai que le thème de la quête identitaire est un thème assez récurrent dans mes ouvrages, et là, il est vrai que cette coutume-là était, en tout cas, j'avais envie de m'en emparer pour, imaginer le destin d'une petite bâche à poche qui ne recouvrerait pas son identité d'origine, donc féminine, à l'adolescence, comme normalement c'est le cas pour ces jeunes femmes, mais une bâche à poche qui fuirait cette condition et qui arriverait en Occident, donc qui viendrait voir ce qui se trame aussi derrière le voile, je mets des guillemets à voile évidemment, occidental. Voilà, c'était l'idée en fait.
C'est très intéressant de voir qu'au-delà du destin de cette jeune femme, j'ai pu observer aussi un regard que vous avez porté sur la société afghane en général, qui est porteuse de, alors, je ne peux pas parler de machisme, mais disons d'une domination masculine sans pareil, au point d'ailleurs que cette domination ne s'exerce pas seulement contre les femmes, mais également contre les enfants, parce qu'il y a, vous avez traité d'un sujet que j'ai découvert dans le livre, c'est l'institutionnalisation d'une forme de pédophilie organisée, institutionnalisée, je ne me souviens plus, hélas,
oui,
du terme.
Oui, la coutume des bachabazis, en fait, c'est une coutume qui est quelque part un peu le contraire des bachapoches, mais en même temps qui est basée aussi sur une confusion identitaire. Donc, dans les coutumes des bachapoches, c'est petites filles déguisées en garçons, et dans les coutumes de des bachabazis sont des petits garçons qui sont pris, je dirais, pour la finesse de leurs traits, sont des jeunes garçons qui sont issus de familles très pauvres et dont les parents vendent l'enfant, il n'y a pas d'autre mot, à des proxénètes qui leur apprennent à danser, c'est des danses un peu spéciales, et ces jeunes garçons vont danser devant des assemblées masculines, mais déguisées en filles. Et ensuite, évidemment, il y a aussi tout le commerce sexuel qui s'exerce sur ces pauvres garçons. Donc on voit que dans ce pays, en fait, où l'altérité entre les sexes est très importante, où il y a même vraiment une, je pourrais parler de presque de guerre des sexes, finalement, des coutumes basées sur des confusions identitaires extrêmes comme ça prennent racine. Donc c'est vraiment très très particulier l'Afghanistan. C'est un monde très violent.
Oui, c'est pour ça que je voulais pas qu'on ait l'impression que vous ayez une vision cyclopéenne de la condition féminine. C'est en ce sens que moi j'ai pensé que vous étiez plus humaniste que féministe, parce que vous allez beaucoup plus loin dans l'observation. Et ça, ce qui m'a frappé aussi, c'est le regard que vous avez porté sur l'aspect, géopolitique de la contrée, à savoir que les talibans ont instauré l'interdiction de recourir à cette coutume, ce qui est un paradoxe, parce que pour une fois, l'ordre moral religieux venait au secours des enfants, ce qui est finalement une alternative à la pensée unique ancestrale dans ce pays, et ça montre bien que les clivages en fait religieux sont pas aussi marqués qu'on le croit, et ça m'a beaucoup interpellé sur ce sujet.
Oui, c'est vrai. Alors ça, c'est tout à fait vrai ce que vous dites. La coutume des bâches à poche était interdite par les talibans. Donc sur ce plan-là, on peut dire qu'il y avait une avancée. Mais par ailleurs, sur la condition féminine, les talibans n'ont pas du tout représenté une quelconque avancée pour le droit des femmes. Donc voilà. Non, l'idée, en fait, effectivement, je pars de l'Afghanistan et de ce contexte, géopolitique. Vous avez raison. J'ai beaucoup beaucoup étudié sur la question. Puis je me suis renseignée aussi avec un ami qui a été directeur de la logistique d'une grosse ONG, parce que ça se passe aussi dans le monde des ONG beaucoup, le roman, sur place à Kaboul, donc qui m'a un peu donné des pistes de réflexion aussi. Mais non, l'idée c'était quand même de partir effectivement de cette petite bâche à poche en Afghanistan, donc en Orient, de cette condition qu'elle fuit, mais pour venir aussi en Occident. Et quand même, je dirais, plus de la moitié du roman se passe chez nous, c'est-à-dire en France d'abord, et puis ensuite aux États-Unis, où ma jeune héroïne va, parce que par ailleurs, sous son apparence masculine, parce qu'elle arrive avec cette apparence très masculine de bachapoche encore, il apparaît qu'il y a une grande féminité en elle, et par des biais que je n'expliquerai pas, parce que ce serait trop long, elle va se retrouver mannequin puis top modèle. Donc, je dirais l'extrême inverse de ce qu'elle aurait vécu si elle était restée en Afghanistan. Et en elle fait, va se retrouver porte-étendard, en fait, d'une féminité, là, pour le coup, exacerbée et très standardisée aussi, qu'on lui demande, en fait, d'être en Occident.
C'est
voilà.
Sûr, pour rebondir sur ce que vous dites, là, effectivement, il faut rappeler aux futurs lecteurs que sera l'auditeur ou l'auditrice que l'ONG fait basculer ce garçon manqué.
Oui.
Pour la transformer, je dirais, en fille réussie. Et la question que je me pose, moi, est-ce que vous n'avez pas, dans le roman, brisé ce beau miroir, l'image de la femme occidentale, qui était capable d'offrir une alternative à cette soumission de la femme orientale? Est-ce que la femme occidentale est capable de se libérer de ses chaînes, rentrant dans un milieu comme celui de la mode, alors qu'elle quittait le voile et les contraintes de son pays?
Ben, c'est tout à fait la réflexion du roman. En tout cas, je pose la question. Elle va venir effectivement en Occident avec une idée de gagner sa liberté. C'est une jeune femme qui est éprise de liberté et elle vient avec ce rêve de liberté qu'elle trouve dans une certaine mesure, puisqu'effectivement, quand même, la condition féminine occidentale n'est pas du tout à mettre sur le même plan que cette condition terrible qu'elle fuit. Mais il est vrai que arrivée en Occident et étant par ailleurs mannequin, donc en plus c'est un métier très particulier, elle va aussi trouver chez nous des enfermements qu'elle n'aurait peut-être pas imaginé. Elle va voir aussi que la condition féminine contemporaine occidentale n'est pas forcément toujours rose. Bien entendu, encore une fois, certainement beaucoup plus rose quand même que ce qu'elle a fui. Mais c'est des enfermements beaucoup plus insidieux qu'elle va trouver aussi en France. Et puis aux États-Unis, notamment les diktats, je dirais, esthétiques auxquels elle va devoir coller en tant que mannequin et en tant que femme. Et puis, le culte du jeunisme, par exemple, et puis aussi tout le discours, je dirais, amoureux. Elle va apprendre, elle va faire ses armes. Elle arrive, elle est toute jeune fille, elle ne connaît pas du tout les garçons, elle s'en méfie. Et elle a raison, parce qu'elle a été jusque-là très exploitée par eux. Et elle va finalement continuer à l'être, en tout cas sur une partie du roman, en arrivant en Occident, parce que effectivement elle va être un peu managée par un photographe de mode qui va la formater pour qu'elle puisse devenir top modèle, mais elle va s'éloigner de plus en plus d'elle-même, en fait. C'est ça le propos du roman.
Et en fait, on ne peut pas dire que vous tranchez entre deux mondes en disant, voilà, le monde occidental est meilleur que le monde oriental. Est-ce qu'il faut faire un yalta entre les deux mondes? Je ne pense pas, parce qu'on est en train de cliver un petit peu les deux cultures. C'est d'ailleurs d'actualité. C'est pour ça que ce qui est intéressant dans votre roman, c'est justement, je dirais, à la fois le focus sur la condition féminine. Moi, je dirais plutôt que c'est un ouvrage sur la condition humaine. Ça va encore plus loin.
Oui, c'est gentil. Je suis d'accord avec vous. Enfin, c'est en tout cas ce que j'ai voulu écrire. Il est clair que d'un point de vue purement, alors là, je vais dire juridique ou politique, c'est quand même beaucoup plus agréable d'être une femme en France ou aux États-Unis qu'en Occident, en Afghanistan. Ça, c'est très clair. Et évidemment, le propos se situe pas là. Mais quand elle arrive chez nous, elle voit aussi que derrière le miroir, derrière cette liberté qu'elle avait en tête, elle va être aussi en prise à un certain nombre d'enfermements. De petites prisons, y compris la prison de l'ego dans laquelle elle va beaucoup s'enfermer, parce qu'en étant mannequin, elle va aussi vivre en fait dans le regard des autres et beaucoup dans le regard de l'homme, comme beaucoup de femmes encore. Et peut-être aussi, c'est un propos dans le roman, c'est une piste de réflexion, peut-être que les femmes ont encore finalement la libération totale, je dirais, de la femme se situe peut-être dans les têtes des femmes occidentales encore. Il y a peut-être ça encore à gagner de vivre vivre par nous-mêmes, d'être un peu moins dépendante sans doute du regard masculin et d'avoir confiance dans notre existence propre et pleine. Voilà, peut-être que c'est aussi une des pistes, en tout cas, que ce roman soulève.
Alors donc, on va s'acheminer vers, malheureusement, la fin de notre entretien. Juste une petite question que je pose d'ailleurs systématiquement à mes invités. Le roman qui vous a donné le plus de mal, le premier ou le dernier?
Eh bien, écoutez, le dernier est... tout particulièrement celui-ci, parce qu'il me tenait à cœur. J'ai voulu faire un roman à la fois de large public, c'est-à-dire vraiment raconter une vraie histoire. Il se passe quelque chose à chaque chapitre. Il y a des rebondissements. C'est conçu comme une grande histoire, un grand destin de femme. Et à la fois, je voulais pas non plus, je voulais qu'il y ait un propos. C'est pour moi, c'est ça la littérature, une histoire avec un propos. Et donc, je crois... J'espère aussi avoir, en filigrane, donné quelques pistes de réflexion sur tous les sujets dont on a parlé aujourd'hui.
Vous avez offert la plus belle conclusion qui puisse exister. Votre métier, c'est celui d'écrire, et notre loisir, c'est celui de vous lire. J'invite les auditeurs à le faire. Je vous remercie, Cécilia Duterre, pour votre disponibilité. Je rappelle à nos auditeurs que votre livre, Zéna Bâche à Poche, est aux éditions du Rocher. Il est sorti récemment. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies à côté de chez vous. Et nous avons été enchantés d'en savoir plus sur vous et d'avoir passé une demi-heure d'antenne avec vous. Fort agréable. Je vous remercie. À bientôt de vous revoir. Au revoir.
À très bientôt. Au
Merci revoir. Cécilia.
Qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Entre l'ancien et le nouveau, votre lutte à tous les niveaux de la nôtre est indivisible. Dans les hommes qui font les lois, si les uns chantent par ma voix, d'autres décrètent par la Bible. Le poète a toujours raison, qui détruit l'ancienne oraison, l'image d'Ève et de la pomme. Face aux vieilles malédictions, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Pour accoucher sans la souffrance, pour le contrôle des naissances, il a fallu des millénaires. Sortons du Moyen-Âge, vos siècles d'infini servage pèsent encore lourd sur la terre.
S'achève notre émission. Je vous dis à lundi prochain, 12h30, sur notre antenne, Radio Arverne 100.2, avec notre émission Tranche de Livre. Au revoir et merci.
Remet à l'endroit la chanson et déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Il faudra réapprendre à vivre, ensemble écrire un nouveau livre, redécouvrir tous les possibles. Chaque chose enfin partagée, tout dans le couple va changer d'une manière irréversible.